France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour de poilade dans le monde ce soir.
C'est Poutine qui se rend chez sa voyante.
Qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir proche ?
Je vous vois circuler en limousine, place rouge. Autour de vous, c'est la fête. Tout le monde est heureux, applaudit, rit, danse et vous salue.
Et moi, je salue en retour.
Ah, je peux pas voir, le cercueil est fermé.
On embrasse Charline et qui nous a donné sa voix pour cette blague et piqué dans la revue Cometa. Bonsoir Léna Mogé.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la rédactrice en chef et fondatrice de cette revue Cometa qu'on aime bien défendre ici dans un jour dans le monde. Et particulièrement ce numéro de janvier qui semblait faire vraiment, qui semblait être fait pour nous. En fait, rire pour résister, ça s'appelle. Vous nous faites voyager, vous nous emmenez en Ukraine, en Chine, en Corée, en Russie et ailleurs aussi. Ou contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parfois on se marre bien. Léna Mogé, parce qu'il faut aussi parfois se marrer. Et justement, c'est peut-être d'ailleurs le fil rouge et le point commun entre tous ces pays. Rire fait peur aux dictateurs. Le rire est une arme, où qu'on soit, qui laisse les despotes démunis.
En fait, ce qui nous a marqué, ça fait un an à Cometa qu'on travaille avec des auteurs en Ukraine, au Bélarus, en Chine, à Gaza. Et alors, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont tous une arme en commun, c'est le rire, qui est une arme légère mais redoutable face à la haine, à la tyrannie et à la barbarie. Et en fait, on a fait un peu ce tour du monde, disons des blagues à travers des photos, des textes ou des regards de chercheurs. Il faut dire qu'on rigole bien, même sous les bombes.
Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est ce que vous me disiez, c'est que certaines blagues peuvent être en plus très internationales, circuler dans le monde entier. Il suffit parfois de changer un nom et ça marche pareil, qu'on soit à Minsk, à Kiev ou même à Pyongyang.
Voilà, nous, on traduit tous les textes. Alors, il y a vraiment des blagues qui sont intraduisibles.
Alors, j'allais dire, elles ne doivent pas tous être traduisibles.
C'est des références culturelles. Mais il y en a d'autres qui marchent, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une mondialisation de la culture. Et donc, par exemple, quand Kadyrov, président de la Tchétchénie, défile avec plein de militaires en soutien à Poutine en Ukraine avec des bottes Prada, circule le même, le diable s'habille en Prada et dans le monde entier tout le monde le comprend. Ou là, vous l'avez peut-être vu, il y a des photos de Bachar al-Assad en slip et on a l'impression que c'est la couverture de Nevermind de Nirvana. Et donc ça a circulé en disant c'est pas un bébé mais c'est un tyran qui fait du rock.
En fait, ce qui ressort de la revue et de tous ces articles là, c'est que c'est pas tant les blagues qui font peur, c'est que les blagues sont incontrôlables en fait. On peut fouiller les gens, leur demander s'ils ont une arme, on va pas les fouiller pour leur demander de déposer leur blague à l'entrée. Et tout ce qui n'est pas contrôlable en fait effraie terriblement ces gens-là.
Bah, en fait, quand vous êtes un tyran, il y a deux choses que vous pouvez pas contrôler, c'est l'humour et l'art. Et encore plus quand il est fait par des femmes. Et donc, ce qui vous reste à la fin, c'est cette liberté-là. Et donc, partout où il y a de la tyrannie, c'est cette liberté que les gens expriment.
Et d'ailleurs, je trouvais que c'était intéressant, assez fascinant même. On ira en Ukraine dans un tout petit instant. Ce qui m'a le plus fasciné, je crois que c'est la Corée du Nord, en fait. Et chez Kim Jong-un, parce qu'on a l'impression que Kim Jong-un est propriétaire du rire. Il est le seul à avoir le droit de rire. Sur toutes ses photos, il rigole. Et lorsque on célèbre l'anniversaire de la mort de son père, il interdit les gens de rire pendant 11 jour, le rire lui appartient. Qu'est-ce que ça dit quand même quand un dirigeant de ce genre décide que le rire lui appartient ?
Alors, le rire, c'est une arme de subversion, mais c'est aussi une arme de domination. Et en fait, Kim Jong-un, il a interdit plein de choses de manière arbitraire qui sont totalement absurdes. Donc, par exemple, les hommes n'ont pas le droit d'avoir les cheveux longs. Il n'y a que 15 coupes qui sont autorisées. Les films américains sont interdits. Les vestes en cuir sont interdites. Mais aussi, il a interdit de rire. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est quand vous êtes au bout du bout d'une dictature et que de père en fils, on a le droit de s'exposer hilar, en fait, c'est aussi une arme de propagande. C'est dire, regardez, la joie même nous appartient.
Je voudrais qu'on aille en Ukraine, évidemment. Il y a cette question magique en Ukraine que pose un blogueur. Faut-il garder sa culotte pendant une alerte aérienne ? Et c'est une vraie question, parce que qu'est-ce qu'on fait, effectivement, quand ça sonne en plein milieu de la nuit ? Ce que les gens vous disent, et que j'ai trouvé à la fois touchant et aussi un peu triste quand même, c'est qu'ils ont juste changé d'humour, en fait. L'humour a changé de couleur, l'humour est devenu noir.
Mais dit aujourd'hui, on rit de tout. On rit quand il y a des drones, on rit quand il y a un missile. Mais en fait, on rit et il y a cette phrase que j'ai notée parce que je la trouve magnifique. C'est l'un des poèmes les plus connus de Lesia Ukrainka. Elle s'intitule « Pour éviter de pleurer, j'ai ri ». Mmh. Et en fait, l'humour en Ukraine, c'est ça. Alors, il y en a quand même des... Il faut avouer qu'ils sont très très marrants. C'est comme ce panneau dans la forêt. Ça, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est écrit en ukrainien « Danger mine ». Et la traduction en russe, c'est « Bienvenue ».
J'ai lu ça aussi. J'ai vu aussi cette blague que j'ai trouvée tellement cynique et en même temps tellement drôle. C'est un soldat qui est au front sur un ponchon en première ligne. Il n'y a pas de connexion et sa femme n'a plus de message depuis 2 semaines. Et du coup, une copine lui demande « Alors ton mari, toujours rien ?»« Non, non, toujours rien. Je soupçonne qu'il a une maîtresse. » Et c'est tellement noir. Et en même temps, c'est tellement drôle. Je vois Fadrik Ses qui ricane dans son coin de ce côté-là. Mais, et tout en échangeant, évidemment, sur les réseaux. Après, ce qui change tout, évidemment, c'est le canal. Évidemment, Léna Mogé, aujourd'hui, c'est tellement simple aussi d'envoyer d'un coup de WhatsApp, d'un coup de YouTube, d'un coup de tweet, quelque chose qui redonnera du baume au cœur des gens dans ces pays-là.
Bah, en fait, il y a toujours eu de l'humour sous les dictatures. Enfin, même sous Staline, il y avait un nom pour les prisonniers blagueurs. Ça s'appelait les anecdotchiks. Et donc, il y a cette blague circuler, c'est un juste qui se tord de rire. Un autre lui dit « Ah, bah, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ah, mais c'est une blague que je viens d'entendre. Raconte, je viens de coller 10 ans de camp pour ça, celui qui me l'a dit. » Sauf qu'à l'époque, ça circulait pas sur les réseaux sociaux. La différence aujourd'hui, c'est que ça devient effectivement viral. Mmh. Sous Kadhafi, il y avait plein de blagues. Sous Ben Ali, il y avait plein de blagues. Aujourd'hui, en Ukraine, le gouvernement ukrainien a même intérêt à ce que les blagues circulent, ouais, et à ce qu'elles deviennent virales, universelles, pour que nous aussi on les connaisse en fait et qu'on se batte de cette manière-là aux côtés des Ukrainiens.
Et en même temps, c'est intéressant parce que Zelensky, dont c'était le métier, lui en revanche ne rit plus. On ne le voit plus jamais rire, cet homme-là, nulle part, à aucun moment.
C'est ce que raconte l'auteur du papier dans Cometa. Ouais. Il dit aujourd'hui, il est plutôt Churchill que Chaplin.
C'est vrai. Et c'est vrai, par ailleurs, c'est aussi la posture qu'il s'est donnée. Il y a un autre exemple que j'ai trouvé hyper fascinant qui est en Chine, ce sont les étudiants qui se photographient, qui postent des selfies d'eux-mêmes sur les réseaux au moment de leur diplôme. Donc ils sont habillés tout en diplôme avec le chapeau sur la tête et ils font mine d'être complètement effondrés sur des bancs, sur des marches, enfin ils sont dans un coma terrible, etc. Une manière de dire, de toute façon, ça sert à rien dans un pays corseté que ce diplôme-là. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que pour l'instant, la Chine ne sait pas quoi en faire, en fait. A pas décidé. Est-ce que c'est subversif, donc est-ce qu'on l'interdit? Est-ce que c'est antipatriotique? Est-ce qu'on l'interdit? Ils n'en savent rien, ils ne savent pas quoi en faire.
Ouais, en fait, c'est hyper intéressant de voir que tout d'un coup, ce mouvement-là, donc c'est des millions d'étudiants chinois, ouais, qui se postent, alors parfois, ils défèquent sur leur diplôme, ouais, finalement, ils font semblant,
oui, parfois,
d'être pendus.
C'est... Parfois, c'est terrible.
Et tous ne cachent pas leur visage, alors qu'ils pourraient terminer en prison. Mais c'est tellement massif que le gouvernement est un peu interdit, parce que en fait les tyrans ne savent pas maîtriser le second degré. La tyrannie, c'est du premier degré. Qu'est-ce qu'on fait de ce second degré-là aujourd'hui?
Qui vous a envoyé les blagues, en fait? Est-ce que quand vous demandez à vos correspondants ici-là, tu peux m'envoyer des blagues, ils vous disent non mais il se passe quoi chez Cometa ce soir, ou au contraire j'en ai plein, bouge pas? C'est quoi l'histoire?
En fait, c'est un peu un mélange de tout. Ce qui est drôle, c'est que ce numéro, on l'a vraiment choisi en parlant avec donc plein d'auteurs sur le terrain. Et ce qui nous a décidé, c'est qu'on a monté un numéro spécial sur l'Arménie. Et il y avait plein de gens dont les familles avaient été victimes de génocide et qui arrivaient avec des blagues à gogo, dont un Arménien arrive à Marseille. Il poste une petite annonce, échange 3000 ans de civilisation contre terrain à bâtir. Je trouve que c'est André Manoukian qui nous l'avait raconté. Et donc, de fil en aiguille, dans tous les dîners, les gens étaient là. Ah, bah, moi, j'ai cette blague. Tiens, j'ai cet ami en Iran qui a cette blague-là. Et donc, on a même fait une page de blagues.
Alors, la page de blagues, je l'ai sous les yeux. Ça se passe à Minsk. Donc, en Biélorussie, un homme rentre de son travail, sobre, tranquille. Une voiture de police s'arrête à son niveau. Ce sont des policiers anti-émeutes qui en sortent et qui le frappent à coups de matraque et qui commencent à l'embarquer. Mais enfin, laissez-moi partir, j'ai voté pour Loukachenko. Et les flics répondent, arrête tes conneries, personne n'a voté pour Loukachenko. Dans ce numéro de Cometa, Léna Mogé, il y a aussi un long papier de Michel Vievorka, une interview sur les histoires juives, notamment. Est-ce qu'on peut encore faire des blagues juives? Où est-ce qu'on peut les faire? À destination de qui? Est-ce qu'il faut les laisser à l'intérieur de la communauté? J'imagine que les blagues palestiniennes aussi, ça existe.
Alors, non seulement ça existe, mais nous, il y avait un truc très très émouvant, parce qu'on a des correspondances avec des auteurs, et donc ça fait des mois qu'on fait écrire un journaliste qui est resté à Gaza avec sa famille, qui s'appelle Rami Aboujamouz.
Qu'on connaît aussi,
ici, ouais. Et qu'on n'avait pas de nouvelles de lui depuis plusieurs jours, et il nous a envoyé cette toute petite blague toujours vivant, avec un smiley.
Ouais. Et là, on rit, mais on rit
pour
bizarre.
Exister.
Ouais, exactement, mais on rit bizarre. Léna Moget, je vous remercie mille fois. C'est le numéro de janvier de Cometa. On est content de le défendre. On est content que vous soyez là. Je voudrais ajouter que ce numéro, qui sort donc la semaine prochaine.
Il sort le 15 janvier.
Voilà, à une marraine qui s'appelle Charline Vanhoenacker. C'est pour ça qu'on lui a demandé de faire une blague tout à l'heure, qu'on embrasse évidemment, qui a encore le droit ici de se moquer des puissants de tout poil. Et puis, il y a une soirée ce samedi, tant qu'à faire. S'il reste des places, allez-y. Ça se passe où?
Ça se passe au Théâtre de la Concorde, à Paris. C'est gratuit. Et c'est samedi à 20h30, vous pouvez vous inscrire sur le site soit de Cometa, soit du Théâtre de la Concorde.
Voilà, rire pour résister, c'est important. Merci beaucoup. Merci vraiment de votre passage chez nous. La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Ça se passe en Chine avant l'arrivée de Trump. Pour vous accompagner jusqu'à 19h, il y a aussi Le Monde à 18h50 avec Frédéric Saïd. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne. Le paradoxe, Jean-Marie Le Pen, resté député européen près de 35 ans, longévité record dans une institution qu'il détestait.
Et puis Hélène, au pays des 50 États. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Fabienne. Cette semaine, on part à la rencontre de Bruce, vendeur de crevettes en Louisiane. Il a hâte que Donald Trump augmente les frais de douane.
Allez, à tout de suite les amis, voici les Cuckers. I don't wanna, c'est dans la playlist de France Inter. Nous sommes en Chine pour la deuxième étape de notre série avant le retour de Donald Trump au pouvoir. La Chine, cible numéro un du candidat Trump pendant toute sa campagne. Le nouveau président, le presque président, qui avait déjà lancé une grande offensive commerciale contre la Chine lors de son premier mandat, a promis de nouvelles surtaxes sur les produits chinois pouvant aller jusqu'à 60%, de quoi évidemment affecter très sérieusement les échanges commerciaux. En Chine, les entreprises qui exportent vers les États-Unis sont inquiètes pour leur avenir. Et le reste, c'est Sébastien Berriot qui raconte.
Dans cette petite usine de la province du Fujian, dans le sud de la Chine, la spécialité ce sont des produits cosmétiques à base d'huile de camélia. Ce matin, dans les entrepôts, les ouvriers préparent d'immenses cartons destinés au marché américain. Ici, nous explique le responsable marketing, Xie Guolu, 70% de la production est vendue aux États-Unis.
Ici, vous voyez, ce sont les produits finis, prêts à être exportés vers les États-Unis. Il y a du shampoing, des gels douche, et il y en a pour 18 tonnes. Nous attendons les documents de la douane et les marchandises seront envoyées par bateau vers les États-Unis ce jeudi ou lundi prochain.
Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est une période d'incertitude qui s'annonce. La menace de nouveaux droits de douane est vécue avec inquiétude par les 80 ouvriers comme Lu Shengjiao qui travaille ici depuis 6 ans.
J'ai des inquiétudes. Si le volume des exportations est réduit et que les commandes ne sont pas suffisantes, cela veut dire que la production sera également réduite et l'usine devra baisser ses dépenses. Des réductions de salaire seront possibles et des licenciements à craindre.
Les Chinois n'aiment pas parler ouvertement de politique, mais le responsable marketing nous avoue que lorsqu'il a appris la victoire et le retour de Donald Trump, ça ne lui a pas vraiment fait plaisir.
Nous sommes d'autant plus effrayés que lors de son premier mandat, Trump avait déjà augmenté les taxes jusqu'à la limite de ce que nous pouvions nous permettre. S'il augmente encore, alors nous n'aurons plus aucun bénéfice. Mais nous ne voulons absolument pas abandonner le marché américain. Nous nous battrons de toutes nos forces car nous devons nourrir nos employés. S'il n'y a pas de commandes, la machine s'arrêtera, ce qui portera un coup fatal à l'entreprise.
Changement de décor, 600 km plus au nord, on est dans la ville de Yiwu, premier centre manufacturier au monde. Dans cette usine, on fabrique des décorations de Noël. Ici aussi, une grosse partie de la production part vers les États-Unis. Mais le patron Zhen Ziyu ne se montre pas trop pessimiste.
On essaiera de se maintenir. Nous serons obligés de répercuter sur le prix final vendu aux consommateurs. Nous ne pouvons pas faire de prévisions. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons connu de nombreux changements de président aux États-Unis et au final, nous faisons toujours des affaires avec ce pays.
À Pékin, le régime de Xi Jinping souhaite avant tout préserver l'économie chinoise qui traverse une période difficile depuis le Covid. Pour le moment, on observe et écoute les déclarations de Donald Trump. Mais pour le chercheur Zhou Bo de l'université Tsinghua de Pékin, l'impact économique devrait être limité.
La première fois que Trump était au pouvoir, il a lancé une guerre commerciale et la Chine a été prise au dépourvu à l'époque. Mais en réalité, cette guerre commerciale n'a pas beaucoup affecté la Chine. Quant au droit de douane à 60%, quelle est la probabilité? Je pense que la plupart des gens en doutent. Les échanges commerciaux tomberaient à zéro. Ce n'est pas possible. Les USA ont besoin d'un grand nombre de produits chinois.
Dans la petite usine de shampoing, dans le Fujian, le patron, lui, se prépare tout de même à des lendemains compliqués. Il s'est lancé dans une difficile recherche de nouveaux marchés. Des contacts ont été établis avec le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite, mais pas de quoi remplacer l'énorme marché américain qui fait vivre son usine depuis plus de 5 ans.
Sébastien Berriot, merci beaucoup. Le Monde à 18h presque 50, c'est Frédéric Say.
How dare you?
World change.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et retour avec vous Frédéric sur la mort de Jean-Marie Le Pen, retour sur sa carrière européenne et sur ses prises de position internationales. Il est élu au Parlement européen pour la première fois en 1984.
Oui, en ce début des années 80 en France, le Front National connaît ses premiers succès locaux, mais impossible encore d'entrer en nombre à l'Assemblée nationale. La marche est trop haute. Alors Jean-Marie Le Pen va choisir le Parlement européen comme base arrière, plus accessible. C'est un scrutin à la proportionnelle. Sa liste obtient 11% des voix en 1984. 10 élus frontistes arrivent à Strasbourg. Dans l'hémicycle, Jean-Marie Le Pen voisinera alors avec le MSI italien, héritier du fascisme, puis les flamands du Vlaams Blok. Quelques poignées d'élus sulfureux, tenus à distance par les autres partis, c'est le cordon sanitaire. La fonction est donc avant tout protestataire. À la tribune, Jean-Marie Le Pen multiplie les harangues contre les fédéralistes européens qu'il accuse de tuer la souveraineté et l'identité française. On n'appelait pas encore ça le Frexit. Face à ses adversaires, il n'hésite pas à manier l'injure et l'attaque ad hominem. Puis, il s'étonne de se voir couper le micro par le président de séance, comme ici en 2011.
Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici.
Jamais en retard pour provoquer un incident de séance, Jean-Marie Le Pen réitère au Parlement européen ses propos sur les chambres à gaz. À plusieurs reprises, les eurodéputés lèveront son immunité parlementaire. Encore récemment, dans l'affaire dite des assistants, soupçons de détournement de fonds au profit du Front National. À Strasbourg et Bruxelles, Jean-Marie Le Pen, bouillonnant mais isolé, conquiert une attention inversement proportionnelle à son influence réelle sur les textes votés.
Isolé au sein du Parlement européen, Jean-Marie Le Pen, Frédéric, tente de contourner en quête de crédibilité à l'international.
Et dans cette quête, il obtient une poignée de main avec le président américain Ronald Reagan, 1987. La photo qui immortalise cette rencontre ne traduit pas vraiment la brièveté de l'échange à la fin d'un déjeuner organisé par une association conservatrice, poignée de main à la chaîne de Reagan avec plusieurs dizaines de convives. Deux ans avant, Jean-Marie Le Pen serre la main du pape Jean-Paul II, là aussi de manière furtive et collective, à Rome. Mais au-delà de ces tentatives symboliques, le dirigeant du Front National international peine à établir un réseau et une doctrine à l'étranger. Il ne parvient pas à développer ce qu'on pourrait appeler une internationale dénationalisée.
Et on entendait Jean-Marie Le Pen pester contre les bolcheviks. Sa vision des relations internationales, elle est marquée par l'anticommunisme ?
Oui, il est élu pour la première fois dans les années 50. À l'époque, l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, entre Moscou et Washington, écrase toutes les grilles de lecture politique. Parachutiste envoyé en Indochine puis en Algérie, il lutte contre les décolonisations qu'il voit comme des révoltes encouragées par les communistes au détriment de l'Occident. Hostilité au mouvement de libération en 1990, c'est aussi ce qui le pousse à prendre parti contre Nelson Mandela, tout juste sorti de prison en Afrique du Sud. Voici alors la première réaction de Jean-Marie Le Pen.
Ça ne m'a pas ni ému, ni ravi. D'abord parce que j'ai toujours une espèce de méfiance à l'égard des terroristes.
Mandela qualifié de terroriste par Jean-Marie Le Pen dans l'émission L'Heure de Vérité. Anticommuniste, mais pas pour autant pro-américain. Lors de la première guerre d'Irak en 1990, il affiche sa proximité avec Saddam Hussein, alors que la France et la coalition internationale s'opposent aux dictateurs irakiens. Il soutiendra ensuite les Serbes dans la guerre des Balkans, visiblement pas fâché de figurer encore du côté des parias.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. On se retrouve demain, le mardi, et jusqu'à l'investiture de Donald Trump. C'est bientôt. Voici Hélène au pays des 50 États et Hélène Chevalier.
France Inter.
We are Americans.
Cette semaine, Hélène, vous nous emmenez à la rencontre d'un vendeur de crevettes en Louisiane.
Oui, Bruce travaille sur un marché de poissons à proximité d'un tout petit port situé dans l'immense delta du Mississippi. Grâce à son accès au golfe du Mexique, la Louisiane est le plus gros producteur de crevettes aux États-Unis. Mais l'État est fortement concurrencé par des pays d'Amérique du Sud et surtout d'Asie. Les Américains sont les plus gros consommateurs de ce crustacé au monde. Ils en mangeraient en moyenne 2 kilos par personne, mais 90% des crevettes qu'ils ont dans leur assiette est importée. Donald Trump pourrait changer les choses, avec notamment l'augmentation des frais de douane. J'avais dans l'idée à l'origine d'interviewer un pêcheur, mais tout ne s'est pas complètement passé comme je l'avais imaginé. 6h du matin, je m'étais dit que c'était le moment parfait pour rencontrer des pêcheurs partant ou revenant de leur sortie en mer. C'est tout le contraire, les bateaux étaient bien tous à quai, mais le port désespérément vide. Et puis j'ai croisé Charles. Lui a bien un bateau, mais il a un fond plat. Il emmène les touristes voir les alligators dans le bayou.
Vous voulez monter sur un bateau? Je vous mets dans un hydroglisseur.
Non, merci, c'est gentil. Vous savez s'il y a des pêcheurs qui vont venir?
Peut-être, on ne sait jamais. Vous ne savez pas quand ils vont sortir, et aujourd'hui, il y a beaucoup de brouillard. Donc c'est un mauvais temps pour sortir si vous n'êtes pas déjà en mer. Le mieux serait d'aller à Grande Île. Il y a une grande concentration de pêcheurs là-bas. Vous avez déjà été à Grande Île?
Non, jamais. C'est où? Vous pouvez me montrer sur la carte? T'as 2 heures de route. Je suis en train de me motiver quand j'aperçois de la lumière sur le marché aux poissons qui jouxte le petit port. Bruce et une de ses collègues sont en train de mettre en place des grosses glacières bleues sur leur stand. C'est quoi les prix des crevettes?
Ça, c'est notre petite crevette. Nous faisons 2 prix, donc c'est 4 dollars la livre. Mais si vous prenez 5 livres ou plus, c'est 25% moins cher.
Vous êtes le propriétaire?
Non, je suis en train d'acheter le magasin. La propriétaire est chez elle, elle s'occupe de ses parents âgés. Je suis censé avoir un retour de la banque aujourd'hui ou demain.
Et comment se portent les affaires?
Très bien.
Qu'est-ce que vous vendez le plus, les crevettes?
Les crevettes et les crabes vivants.
Ces crevettes sont issues de la pêche locale. J'ai lu que leur nombre était menacé par le réchauffement du golfe, mais Bruce n'y croit pas.
C'est un mythe. Il y a plein de crevettes dans le golfe, on ne va pas en manquer.
Des mesures ont été prises pour éviter la surpêche. Certaines zones sont interdites pendant plusieurs mois, m'explique-t-il.
Avec toutes les crevettes que nous avons dans le golfe du Mexique, nous pouvons nourrir le monde entier. On ne va jamais en manquer.
Non, pour cet ancien ouvrier du bâtiment, la menace vient plutôt de l'étranger.
Ils avaient organisé un festival de crevettes. Des biologistes ont fait des tests et ils ont découvert qu'une grande partie des crevettes étaient importées et que les publicités faisaient croire qu'il s'agissait de produits frais locaux, ce qui n'était pas le cas. Cela nous a vraiment porté préjudice à toute l'industrie.
Et ouais, 80% des crevettes de ce festival local organisé cet automne venaient d'Inde ou d'Équateur et c'est malheureusement plutôt fréquent dans les restaurants ici. Vous savez pourquoi ?
Le coût, j'imagine. Je ne pense pas que ce soit un produit de bonne qualité. Ils les produisent en masse, vous savez. C'est de l'élevage. Ils l'obtiennent à un prix moins cher, je suppose. Elles ne sont pas meilleures. Non, nos crevettes locales sont bien meilleures. Je ne veux pas faire de politique, mais je pense que l'administration Biden a tout gâché.
Pourquoi ?
Je pense juste qu'il a essayé de stopper notre industrie, donc les frais de douane vont nous aider à long terme.
Vous espérez que les frais de douane aident ?
Oui, absolument, absolument. Je pense que cela va aider les pêcheurs et les entreprises locales, car beaucoup de gens ici ne veulent pas de ces importations. J'attends que Trump revienne et répare tout, vous savez, que les choses reviennent à la normale. C'est tellement le bazar dans notre économie.
Un client arrive, il cherche des crabes. Il repartira avec des crevettes, l'étal du poissonnier est plutôt vide ce matin. Bruce a été dévalisé lors des fêtes, il attend que les 4-5 pêcheurs locaux avec qui il travaille retournent en mer. Ah, vous avez un peu de chasson ? Tilapia ? C'est un poisson local ?
Non, il est importé. Il vient du Mexique.
Un poisson qu'il paiera plus cher si Donald Trump met à exécution ses menaces d'augmenter de 25% les frais de douane pour ses voisins canadiens et mexicains. Mais là, sa priorité, c'est de se reposer. Après avoir travaillé non-stop pendant les fêtes, le poissonnier attend avec impatience ses prochains congés. Vous faites quoi de vos jours de repos ?
Je vais pêcher. Je m'assois et je me détends. Il n'y a personne autour. C'est très calme.
Hélène Chevalier, à mardi prochain. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite. C'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Ce soir, la caricature 10 ans après Charlie.
Oui, une dessinatrice et deux dessinateurs de presse avec nous ce soir. Un coucou à Coco, que j'apprécie énormément, et qui est Rémi Danmas. Et puis Tom, sur WhatsApp, pose cette question. Une démocratie qui n'arrive plus à rire d'elle-même. Est-ce un premier signe, un premier indice que quelque chose se ferme ? Je crois que j'ai un début de réponse.
Allez, 01 45 24 7000 pour discuter avec nous. C'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp.
Radio France fête ses 50 ans, 50 ans de fenêtres sur le monde.
Une nouvelle réglementation sur les voyages à l'étranger est en vigueur depuis aujourd'hui en RDA. Elle permet à tout citoyen de se rendre en RFA à Berlin-Ouest et partout à l'étranger sans motif particulier.
Un seul avion sera dans le ciel américain dans quelques minutes. Il s'agit du 747 du président Bush pour faire face à ce qui semble être la plus grave attaque terroriste coordonnée jamais menée sur le territoire américain.
C'est une église en briques. C'est une odeur épouvantable. L'odeur est absolument épouvantable.
Lorsque vous revenez de Chine, la première question est toujours la même. Comment vivent-ils ?
Bonsoir, bienvenue à Paris. 6, 5, 4, we've
gone for main engine start, we have. Le peuple gourmand qu'on considérait pendant très longtemps comme un peuple passif, il sait se mobiliser, il sait payer sa liberté et il l'a gagné.
On me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses.
Nelson et Winnie, côte à côte, tout sourire et très dignes dans leur bonheur. C'est l'image que le monde entier retiendra en cette journée historique pour l'Afrique du Sud.
Cela fait 50 ans que nous partageons tout cela et il nous reste tant à vivre ensemble.
France Inter. Première radio de France.
Et sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir. Ses convictions étaient ses détestations. Jean-Marie Le Pen est mort à 96 ans, figure de l'extrême droite, cofondateur du Front National, multicondamné, patriarche contrarié par les siens, un visionnaire pour le RN, fasciste pour la gauche. Son rôle relève maintenant du jugement de l'histoire, écrit l'Élysée. Nous y reviendrons longuement dans ce journal. Un 7 janvier, 10 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, commémoration aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ceux de Montrouge et de l'Hypercacher, on prend le crayon avec des dessinateurs au téléphone sonne, inspirés sans doute. Aujourd'hui, l'actualité, c'est encore les hôpitaux sous pression avec l'épidémie de grippe. Donald Trump en conférence de presse surprise aux États-Unis et puis le CES de Las Vegas, salon des nouvelles technologies. Nous y sommes.
France Inter.
De ses 60 ans de vie politique, on retient une date. 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen ressuscite une extrême droite bannie.